est très compliquée. Tu disais, c'est devenu ringard, mais avant de devenir ringard, ça a été considéré comme réactionnaire surtout. Et par exemple, on peut songer à, enfin, tout autant à la critique marxiste, post-marxiste, mais aussi à la critique bourdieusienne. Le sens esthétique a été dénoncé par Pierre Bourdieu comme un des signes de distinction. Seuls les initiés pouvaient partager le sébo. Alors effectivement, dans ce sens-là, la position de cette formatrice ou responsable de formation pédagogique, oui, c'était sur ce sur quoi elle s'appuyait. Elle voulait dire qu'il ne fallait pas que les enseignants transmettent cette distinction absolument stigmatisante pour ceux qui ne pourraient pas partager la culture forcément bourgeoise du goût du beau, en gros. Et par ailleurs, on peut aussi penser, ce qui a été beaucoup dit, fait, là je ne fais guère que reprendre des choses très connues, les nazis avaient un sens du beau, que les caricatures antisémites se faisaient au nom de certains canons du beau et de la laideur, que la question du beau, enfin plutôt la mise en valeur du beau, d'un certain type de beauté, a été tout à fait centrale dans l'idéologie nazie, dans les idéologies racistes en général, qu'il y a un canon du corps classique, par exemple, qui dévalue de facto d'autres formes, d'autres beautés, enfin d'autres... Oui, d'autres formes, tout simplement, formes de corps, formes d'art, formes de culture, etc. Donc c'est très chargé, effectivement. Moi, la seule chose que j'ai essayé de dire dans mon livre, c'est que sans avoir aucune définition du beau, et à condition que ce soit dans l'accueil que cela se fasse, je trouve ça très triste de se priver de cette exclamation « c'est beau ». Mais encore une fois, à condition que ce ne soit pas un sébo qui immédiatement produise des exclusions non interrogées. Parce que de toute façon, dès qu'on défend une certaine valeur, il va y avoir des effets. On choisit quelque chose. Donc ça, j'ai l'habitude de dire, moi je prends mes responsabilités, je peux expliquer ce que je choisis. Ce à propos de quoi je ne dirais pas sébo. Mais il ne faut pas que le sébo soit rigide au sens culturel, au sens... voilà.
Au sens peut-être que tu as évoqué hier de la belle langue ou d'une espèce de langue canonique issue d'une certaine production historique.
Par exemple, oui. Notamment, oui, bien sûr. Alors, bon, la belle langue, c'est un peu une catastrophe, effectivement. Effectivement, c'était aussi ça qui était attaqué dans la volonté de renoncer au sébo. Oui. Mais de là à, du coup, préférer toute... destruction de la dite belle langue et d'aller jusqu'à privilégier ce qui s'est nommé à un moment donné une esthétique du lait, une esthétique du cru, du brutal, hein. C'est là que personnellement je prends mes responsabilités et j'y dis non personnellement.
Alors, tu dis, je ne donne pas de définition du beau, on y reviendra simplement après. Néanmoins, tu suggères, et on viendra dessus ensuite, un critère de ce qui fait la beauté. On y reviendra ensuite, on ne va pas l'aborder. D'accord. Maintenant, parce que ça engage sur la question du partage. Alors, ce que tu suggérais juste avant, c'est que face à cette... impossibilité d'affirmer le beau, il y a eu deux stratégies, alors des commentateurs, mais aussi des écrivains, qui a induit un certain type de littérature moderne ou contemporaine plutôt, qui était soit la revendication d'une écriture blanche, du neutre, dis-tu, qui ne cherche à produire aucun effet, on va dire, esthétique. Soit au contraire, ce que tu suggères là, l'écriture du choc brutal, du trauma, du réveil du trauma que chacun... Alors là, tu renvoies un peu à la psychanalyse, mais peu importe, qui est la présentation, non pas la représentation, mais la présentation brutale du réel dans ce qu'il a de cru, de violent, de brutal, et ça induit toute une littérature. Donc par rapport, c'est en gros ça que tu évoques comme alternative, impasse, que tu dis être une impasse dans les deux cas, qu'on choisit un certain nombre d'auteurs. Et j'aimerais vous interroger l'un et l'autre, Maïlys et David, sur cette question-là. Comment, en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'écrivain, vous abordez cette question-là? Alors, Maïlys, juste un point, tu as intitulé ton intervention de cet après-midi « Le beau travail ». Donc, je ne voudrais pas que tu sois conduite là, maintenant, à déflorer ce que tu diras cet après-midi, mais peut-être que tu pourras aborder un autre aspect là, maintenant.
Non, c'est l'intitulé de cette conférence, l'intitulé de cette conférence, Le beau travail, c'était précisément immédiatement faire signe à la beauté, à cette idée du beau. Au contraire, enfin, ça rallie complètement ce dont on parle. Pour ma part, je constate aussi que l'expression « c'est beau » devant un texte, elle est rare. Personnellement, je ne m'en prive pas. Et d'ailleurs, je trouve que ce qu'elle a aussi de presque commode, c'est qu'elle ne se discute pas d'une certaine manière. Et que c'est aussi une assertion qui impose énormément. Autant c'est intéressant appelle un commentaire, autant c'est beau impose une forme de silence, et il y a une forme de puissance à le dire. Moi, je ne m'en prive pas aussi parce que je pense qu'une fois que j'ai dit c'est beau, presque j'ai tout dit. Mm-hmm. Et qu'il n'y a plus rien à dire. C'est une manière de, pour répondre à Dominique, de dire que la question du beau, pour moi, très simplement, elle est présente. Même avant même qu'il existe un texte, en fait, c'est ce qui est visé. Enfin, si jamais il y avait une mire et que je tenais une flèche, c'est ce que j'aimerais atteindre. De fait, c'est presque un idéal. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'idée de beau, il y a aussi l'idée du juste. On reprend cette idée de mire et de flèche. Et que, évidemment, que le beau est une catégorie, d'abord est une émotion, mais aussi une pensée qui regarde immédiatement vers une éthique. Et ça, pour moi, c'est presque l'idéal de un idéal à poursuivre. Mais je dois dire que les manières, moi, j'use de nombreuses stratégies, j'en parlerai cet après-midi, pour. Que tout au long de la pratique, je voudrais parler moi des pratiques du travail, comment on pratique cette histoire-là d'écrire. Pour moi, la question du beau, elle est si importante que j'ai le sentiment que pour moi-même, je fais usage de pratiques, ce sont des stratégies pour que mon travail me renvoie l'idée de beauté en permanence, que ce soit justement sur la manière dont les livres sont agencés dans une bibliothèque, la manière dont j'écris un mot sur une page. Parfois, j'ai le sentiment que qu'il y a une espèce de mouvement de s'avancer en permanence. Au devant de la beauté, et parfois je suis assez décontenancée, de même que Hélène, quand par l'idée qu'il y aurait quelque chose de réactionnaire ou de ringard, parce que notamment dans l'opposition, l'important n'est pas que ça soit beau, l'important est que ça soit juste, hein. C'est souvent ce qu'on dit, mais en fait d'une certaine manière Si le beau, je pourrais presque le dire comme ça, la question du beau qui serait juste, elle est vaste, mais pour moi le juste est toujours beau, d'une certaine manière. Ça, au moins, dans ce versant-là de la question, j'ai une espèce d'intuition assez ferme.
Tu ne rejettes pas l'idéal platonicien auquel fait allusion Hélène dans son livre, qui est que l'équivalence entre le beau, le bon, ou le bien et le juste. et que ce seront des idéaux qui préexistent à tout acte.
Oui, après,
Platon utilise par exemple une image que je trouve très parlante, et dans ton travail tu l'acceptes, l'image du potier qui travaille sur une matière, comme la langue est une matière, et qui va travailler pour donner une forme à ce qui est informe au départ, parce que préexiste dans son esprit l'idée de la belle forme qu'il va donner. Est-ce que tu te retrouves dans cette image pour ton travail? Pas tout à fait. Ou pas du tout?
Je dirais plutôt pas tout à fait. Au sens où, pour moi, le pot et la main, et le geste, en fait, le geste, c'est la langue. Enfin, pour moi, je fusionne totalement. C'est-à-dire, je pense pas du tout que la langue littéraire soit l'objet d'un travail. Je pense qu'elle est ce travail, au sens où, pour reprendre ce qu'on se disait hier sur Boileau, on a eu l'occasion d'en parler un peu, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, etc., mais simplement, on pense dans les mots. Je veux dire, on le conçoit en le disant, on le conçoit en l'écrivant. Pour moi, je pense pas forcément qu'il y ait des phases. Enfin, moi, je distingue des phases de travail. Ça c'est clair. Les choses se matérialisent pas d'un coup. Il y a des phases. Simplement, je ne sépare pas le travail littéraire de la littérature elle-même. Pour moi, il y a comme une identité, comme s'il y avait le signe égal entre les deux. Et d'ailleurs, ce que manifeste un livre, pour moi, c'est le beau travail, c'est le travail. C'est ce que manifeste la phrase, c'est le travail de la langue. Je le conçois comme ça. De fait, c'est moins une forme qu'il faut révéler dans une matière informe, et que ce geste de révélation, c'est celui de l'auteur. C'est plus que, si vous voulez, cette opération ensemble qui mobilise le potier, la main, le geste, l'énergie, la terre. Tout ça, c'est le fond de l'affaire, je dirais. Pour moi, c'est une seule opération. Il y a une unicité totale de ça.
David, comment tu vois les choses?
D'abord, je suis bien d'accord avec ce lien, finalement, éthique entre... Donc, pas du tout dans le rejet, au contraire, des catégories du beau et de sa recherche. Et dans ta question, tu disais comme lecteur et comme écrivain. Et assez instinctivement et rapidement, quand j'ouvre un livre, j'ai tendance à le classer dans l'une ou l'autre de deux très simples catégories, qui est: est-ce que j'ai affaire à un célébrant, à un défenseur, ou est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui pousse dans l'abaissement. C'est une histoire de regard sur le monde. Si on est ébloui par la beauté du monde et du vivant et des gens qui nous entourent et de ceux qui ont vécu dans le passé, alors on n'a pas le choix que de chercher à rendre justice dans la beauté du texte à cette beauté qui nous a d'abord émus. Mais ce qui compte, c'est ce premier regard, c'est être non seulement bienveillant mais bien cherchant. Alors qu'on a toute une frange de la littérature qui se complaît peut-être dans la description de ce qui ne va pas, fait mine de s'en réjouir parfois, parce que c'est des lauriers il y a une petite gloire facile à récupérer quand on est dans le très noir et le très sombre. Mais s'il n'y a pas cette planche minimale de l'amour du monde et de... l'amour d'autrui et du visage de l'humain. Même si je prends parfois plaisir à lire des textes qui sont comme ça dans la noirceur, et mon camp, c'est quand même plutôt celui... Il y a un recueil de textes de l'anglais Chesterton, qui était un converti pamphlétaire assez étonnant, que Borges admirait beaucoup, et son livre s'appelle « Le défenseur ». Et il fait comme ça une défense du pudding, une défense du mauvais goût, une défense des petites porcelaines qu'on met. Parce qu'à chaque fois, il y voit Donc justement, il n'est pas dans cette construction d'une catégorie du beau que critiquait Bourdieu en disant « c'est notre, à nous bourgeois, signe de reconnaissance pour voir que les ploucs sont des ploucs ». Non. Chez des gens comme Chesterton, enfin, ils sont très nombreux à voir qu'on peut être ému par tous les gestes que les gens font autour de nous et à avoir envie de défendre ça et de le rendre beau dans un texte. Et ce principe qui est à l'origine des créations, ça me fait penser à quand Faulkner travaille pour les studios d'Hollywood, il écrit à un ami, tu sais, ces gens-là, c'est pas l'argent. Ils sont fascinés par la mort. C'est la mort qui les fascine. Et c'est ce principe délétère qui sont à l'œuvre. Oui, ils sont là pour faire du pognon, mais qu'est-ce que ça véhicule? C'est toujours le flingue, le meurtre. L'abaissement des figures qui étaient encore des figures traditionnelles de héros, sauveurs de la veuve et de l'orphelin. Hollywood, à ce moment-là, comprend que la direction du succès, elle est plus dans le flingue, le noir, l'abaissement de la figure humaine.
Ce qu'on dirait aujourd'hui, le trash, le gore.
Le trash, tout ça, oui, absolument. Mais sur cette émotion première de la beauté du monde, et je pense encore à Grosjean, qui est un poète auquel je reviens beaucoup. Il fait une préface à un texte d'André Dautel qui rassemble deux voyages en Grèce. Et Grosjean écrit « Bien sûr que la vérité se cache derrière les apparences, mais à condition de ne pas tricher avec les apparences. » Et au sens où, quand on les décrit, les apparences, mais qu'il y a une justice à rendre à nos émotions face au monde, qui est peut-être plus difficile, mais c'est comme quand on est adolescent, dessiné, on s'aperçoit que faire une trogne, c'est beaucoup plus facile que de faire un visage émouvant. Le portrait charge est beaucoup plus simple.
Mais alors là, ça touche à un autre point, un autre nœud que je souhaitais évoquer, que Hélène développe de façon importante dans son livre, qu'elle a un peu évoqué hier. C'est la question de ce que tu nommes l'illusion référentielle. Est-ce que vous tenez l'illusion référentielle, précise ce que tu entends par là d'abord.
Ce qu'on appelle l'illusion référentielle, c'est l'illusion qu'un texte donne de renvoyer un réel extra-textuel, en gros, c'est ça.
Ça pose la question de la représentation.
Voilà, sur le mode de la représentation. Parce qu'un poème amoureux adressé, une louange amoureuse, il n'y a pas exactement d'illusion référentielle, alors même qu'il y a bien un réel extra-textuel qui va être la femme aimée à laquelle est donné le poème. Mais c'est quand l'illusion référentielle se passe, quand le réel extra-textuel est représenté à tel point que l'on croit voir, l'on croit assister à une histoire qui a vraiment eu lieu, on croit voir un paysage qui existe vraiment et qui préexiste. Et qui préexiste à la représentation.
Ce qui renvoie à ce que tu as évoqué hier aussi, à la théorie de la mimésis, de l'imitation-représentation, cher Aristote. Et du coup, ça me pose la question, parce que l'une comme l'autre, est-ce que vous renoncez totalement à représenter quelque chose du réel? Et je n'ai pas cette impression en tant que lecteur. Est-ce que vous pensez que la représentation n'est pas qu'illusion. Ou de le dire autrement, que vos personnages, quand il y a des personnages, ce ne sont pas que des personnages de papier qui n'ont aucune correspondance avec un réel. Il me semblait que tu tiquais.
Non, mais tout à l'heure, j'ai tiqué.
Voilà, c'est bien.
Non, mais c'est sûr que la vérité est toujours derrière les apparences, etc.
C'est la deuxième partie de sa phrase.
Oui, j'ai compris après avoir tiqué.
D'accord, la vérité derrière les apparences, mais ne trichez pas avec elle.
Oui, c'est vrai. Du coup, je tique pas tant que
bon, ça.
Non, mais parce que c'est. Je pense qu'on ne fait jamais assez le travail de considérer ce qui est devant soi et ce qui est à notre portée. On ne fait jamais assez le travail de considérer les apparences. Et je pense toujours que si déjà on fait bien ce travail, qui est toujours un peu au ras des pâquerettes, qui ne consiste pas à projeter des discours et à déjà chercher le discours, le commentaire, mais simplement une saisie, une espèce de captation assez près, je pense que là, la question de la vérité, elle bouge. Hein. Je trouve qu'il y a toujours une forme de scélératesse, allez, allons-y, de scélératesse à toujours faire dire que la vérité, elle est derrière. La vérité, elle n'est pas derrière. La vérité, c'est aussi nous, là, on bouge, je sais pas, on a chaud. La vérité, c'est le monde physique, c'est le monde qui est là, c'est la phénoménologie, c'est ce qui se manifeste. C'est, je suis amoureux, je rougis, j'ai les yeux qui brillent, j'ai envie de toucher l'autre, etc. Ça, c'est quand même, c'est les apparences, c'est la vérité, c'est ce qui est, c'est la vie qui va, la vie organique. Ensuite, je cite toujours cette espèce de série horrible et qui s'appelait Desperate Housewives. Donc les femmes qui sont, voilà. Donc c'est une série qui mettait en scène des femmes et chacune était toujours présentée au spectateur, filmée dans son environnement, etc. Sur un mode qui n'était jamais celui qu'elle était vraiment. C'est-à-dire que celle qui était entourée d'enfants rêvait de redevenir une working girl, alors qu'on la voyait se débattre. Celle qui a été la plus rigide et qui semblait la plus accrochée au rituel de la vie de famille, élégante. En fait, c'était celle qui était présentée comme la plus déviante, y compris sexuellement, etc. En fait, voilà. Et je trouve ça... scélérat au sens où c'est toujours cette espèce de théorie du petit secret, qu'il y a une manigance déjà avant de voilà, et c'est pour ça que et pour moi ça regarde aussi vers cette question de beauté. Et pour finir, donc là je rejoins la question, je vais être plus rapide, c'est que l'histoire de la théorie de la mimésis, alors c'est une chose qui est quand même assez difficile, parce que pour ma part je pense que réellement j'ai pu avoir l'ambition ou la essayer de me lancer dans des tentatives de captation du réel, en tout cas de dire le réel, mais de le dire un petit peu comme je viens de le dire, c'est-à-dire dans sa manifestation assez brute et qui pour moi est belle, enfin oui, voilà, et qui recèle du beau. Pour autant, j'ai compris, alors de livre en livre, parce qu'on change, et puis moi j'ai l'impression que tout cela est toujours en moi un peu instable, la question en tout cas du roman, là je me rabats un peu sur le roman, sur la fiction, pardon, hein, que la fiction, la question de la fiction, c'est jamais la question du réel, et c'est jamais la question de la mimésis, j'irais même presque surtout pas, c'est la question de la vie. La question de la fiction, c'est la question de la vie, un petit peu ce que disait David. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus cette idée de la langue vivante que de l'idée d'une langue qui reproduit, reprend au plus près, représente au plus près le réel.
Pourtant, si on prend par exemple deux de tes derniers livres... Alors, tu vas me dire, ils n'appartiennent pas au même genre littéraire, mais je ne suis pas sûr que cette distinction soit aussi pertinente que ça. Réparer les vivants, ouais, qui est dit être un roman. Ouais. Et d'un autre côté, à ce stade de la nuit, dont on a entendu des beaux passages lus hier par les étudiants, hier soir d'ailleurs, à ce stade de la nuit qui évoque le nom de Lampedusa. Ouais. Il me semble qu'il y a deux... tu as utilisé le mot, donc je m'y autorise, ouais, deux stratégies différentes d'écriture, ouais, parce que quand même, dans Réparer les vivants, tu tentes de saisir quelque chose du réel. D'ailleurs, tu t'es beaucoup documenté en amont, et je n'ai pas le sentiment que tes personnages, tu les considères comme des purs personnages de papier. Tu tentes de dire la vérité de personnages réels. Par contre, dans À ce stade de la nuit... Il me semble que là, volontairement, Tu n'as travaillé que sur les mots, sur la langue, et notamment toute une rêverie autour du mot Lampedusa, mais que tu n'as pas voulu ou prétendu dire le réel de ces noyés que tu écoutes à la radio. Il me semble que tu es sur deux stratégies différentes. Et je dirais, David, un peu la même chose, même si c'est plus atténué. Il m'a semblé qu'entre tes deux derniers livres, il y avait aussi cette différence de stratégie. C'est-à-dire que dans le Courbet, enfin, la Clairefontaine, il me semble que, qui est documenté quand même. Il me semble que là aussi, il y a un travail d'enquête, de documentation sur les dernières années de la vie de Courbet. Tu tentes quand même de dire quelque chose d'une vérité du personnage historique qui a existé de Courbet. Dans Mourir et puis sauter sur son cheval, tu pars d'un personnage historique, mais en fait, il me semble que là, tu tentes d'inventer une langue pour... tu t'en fiches complètement de dire la vérité de cette personne. Il me semble que là aussi, il y a deux, t'en dis rien, qu'il y a deux stratégies différentes dans l'un et l'autre de vous.
Mais dans les deux cas, je crois que c'est aussi très lié au sujet. Si je parle de Courbet, évidemment, je prends au moins la précaution de ne pas raconter n'importe quoi. Et dans la recréation aussi d'une époque, et puis c'est très agréable à faire, hein, dans cette partie documentaire qui est en amont, mais qui en même temps ne cesse de donner des éclats et des désirs d'écrire quand on regarde des archives qui n'ont rien de littéraire, mais qui sont, je ne sais pas quoi, l'installation du tramway entre Lausanne et Vevey. On est dans le respect d'une vérité qui est celle des faits, et en même temps, ça fait mousser la fiction, ou en tout cas, ça fait naître des images. Mais quand on a affaire à un sujet historique, tu emploies le mot de vérité, mais quand même, je crois, et que c'est vrai chez Maëlys aussi, qu'on a garde toujours de ne pas poser une interprétation fermée, et qu'il y a toujours ce rappel assez constant que c'est une proposition, que c'est un éclairage apporté sur une histoire que d'autres ont racontée, que d'autres ont connue, et que c'est pas... je crois qu'on est nombreux chez qui le mot peut-être, sans doute, quand on lit aujourd'hui toute la génération de l'entre-deux-guerres et leur aplomb, comme ça, on leur demandait 10 pages sur Blaise Pascal, ils vous la pondaient comme ça... il faisait le tour de Blaise Pascal comme si c'était une statue de marbre dont on pouvait voir toutes les facettes, et avec une figure de style, Blaise Pascal est à la pensée, ce que machin est à... C'est virtuose, et on a l'impression qu'il a déplacé le buffet de son grand-père pour le mettre du salon à la salle à manger, mais quel aplomb. Enfin, je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de mal à aborder quelque sujet que ce soit avec cet aplomb-là. On essaie de rappeler toujours au lecteur qu'on est un regardant comme un autre qui essaie de faire une proposition artistique et de donner un écho artistique à un certain nombre d'émotions. Mais voilà.
Et tu peux poursuivre par rapport à ton dernier livre. Donc là, tu,
le dernier
tu
livre,
prends le problème autrement, quoi.
C'est un fait divers. Donc un fait divers, c'est l'apparition dans les journaux de quelqu'un qui n'aurait jamais dû y figurer. Donc c'est un destin. J'aurais pu faire le choix de fouiller, mais j'aurais trouvé une poussière d'archives. Là, d'emblée, l'idée était de suivre l'imaginaire que la lecture de ce fait divers a fait naître en moi. Donc là, c'est tout à fait différent, c'est une fantaisie. Donc il n'y a pas de fidélité à avoir avec quelque vérité que ce soit, sinon là les enjeux sont dans l'écriture et sont mais encore une fois le regard sur le monde et sur la période historique de ce qui se joue en 45 quand la guerre cesse et que se met en place déjà le capitalisme tel qu'il va triompher, enfin tout ça c'est sous-jacent dans le texte, mais c'est quand même présent.
Et Maïlys ?
Moi, je pensais que, enfin, ce que ça m'inspire un peu là, ce dont on parle, c'est qu'en fait, moi, je me suis beaucoup posé la question quand j'ai écrit ce livre sur donc Réparer les vivants, qui est un livre qui ne s'occupe que d'une chose, c'est de transférer un cœur d'un corps à l'autre. Et en fait, la narration ne s'occupe que de ça. Et donc ça mobilise immédiatement ce que disait David très, très justement, la recherche documentaire que pour ma part, à laquelle je procède au fur et à mesure de l'écriture. Et c'est intéressant déjà de dire que David s'occupe de Courbet dans ce livre La Clairefontaine, qui est quelqu'un de considérable, sur lequel on a beaucoup écrit. Il n'est pas lui-même un spécialiste de Courbet. Il va être face à une espèce de manne documentaire. Mais personne ne l'a obligé à faire un livre sur Courbet, de toute façon. Donc la moindre des choses, quand même, c'est effectivement qu'il s'y intéresse. Et de la même manière... Moi, personne ne m'a demandé de faire un livre sur une transplantation cardiaque, et ce serait quand même un comble que là-dessus, il n'y ait absolument aucun travail. Parce que je sais, parce que voilà, je vais dire n'importe quoi sur Courbet. La moindre des choses, mais pour moi, là, on est presque en deçà du texte que la documentation soit réglée. Il ne s'est rien passé encore de si intéressant. Un texte documenté... c'est jamais qu'une loyauté, c'est jamais encore qu'une espèce de morale de l'écriture, c'est quand même on est là sur la ligne basse de ce travail d'écrire. Bon, c'est pas du tout ce qui m'importe, et d'ailleurs j'étais toujours, je me disais mais oui c'est documenté, bah oui, mais c'est normal, c'est comme dit David, ça tient au sujet, ça n'a rien d'héroïque, ça n'a rien d'intéressant en soi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas écrit un reportage, ou c'est que j'ai essayé, c'est que j'ai fait appel à la fiction. Donc c'est là où je viens à ce que tu dis, c'est-à-dire que de ce fait, qui est un fait pour moi total, c'est-à-dire philosophique, sociologique, scientifique, etc., qu'est la transplantation cardiaque, moi j'essaye d'en faire une fiction, c'est-à-dire de la dire avec les outils et les canons. Et c'est là où on revient sur ces histoires de forme et de rondeau d'Hélène hier, c'est que qui sont les instruments, les outils, les canons du roman. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une action des personnages qui ont des noms propres, que ça se passe dans un lieu, etc. Et ça, c'est une part d'invention, certes, mais c'est aussi pour incarner cette histoire-là. Et pour moi, c'est là où il y a cette... Où ça, je trouve ça beau. Après, je vais vous parler d'un truc si on a le temps. Mais ce que je trouve beau, c'est que... Aussi, c'est que je me rends compte, en écrivant ça, que... si j'ai écrit cette fiction, c'est aussi que je vise une forme de beauté. Et pour moi, la beauté, elle est aussi dans le fait de réaffirmer que la fiction, elle est porteuse de savoir. Moi, en lisant La Clairefontaine, ces scènes où Courbet se baigne dans la rivière avec son gros ventre, etc., c'est du savoir, c'est de la connaissance. Parfois, ça s'incarne beaucoup plus dans quelque chose qui a une dimension technique et du coup, qui est d'ailleurs peut-être plus facile à appréhender que Courbet se baignant dans la rivière. Hein. Moi, j'avais peut-être plus d'appui d'une certaine manière. Mais le trame, justement, je trouve que il y a une dimension de connaissance et que ça c'est quand même quelque chose qui est fascinant, c'est de penser aussi la fiction comme un accès à tout ça. De fait, j'ai jamais le sentiment que les personnages sont des personnages de papier, etc. J'ai l'impression que ce sont des puissances agissantes et des puissances de vie. En tout cas, moi, j'essaye de les incarner. Enfin, c'est ma tâche.
Tu approuvais sur le dernier point.
Tout à fait. Tu approuves et tu as employé cette image aussi que... on ne nous a pas demandé. Et ça a toujours été très important pour moi, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile, mais ça fonde aussi l'éthique de notre travail. Parce que on sort une proposition, on n'obéit pas à une commande à chaque fois. Et donc, si on décide de tendre vers les autres un texte, cette idée-là, qu'on ne t'a rien demandé, je la trouve très belle, en fait. Pas toujours facile, mais belle.
Facile.
Maëlys, tu disais que tu voulais ajouter un truc, nous dire un truc.
Oui, non, je pense à une œuvre que j'ai vue il n'y a pas longtemps, mais je peux prendre... Vraiment, je vais aller très, très, très vite.
Oui, oui.
En fait, j'ai vu quelque chose qui m'a tellement éblouie que je vais en parler, parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça parle de ce dont on parle. J'ai été voir le travail d'un bioacousticien qui s'appelle Bernie Krause. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un type qui était musicien, qui a d'abord fait des musiques de films, qui a introduit le synthé dans la musique des films. Il a beaucoup travaillé. Je sais qu'il a travaillé par exemple sur Apocalypse Now de Coppola. Donc c'était un type assez lancé. Et puis au moment justement du tournage d'Apocalypse Now, il est allé enregistrer des bruits, les bruits de la nature. Il est devenu, et en fait, il s'est formé très vite à la bioacoustique. Et il a donc arrêté le cinéma, terminé Hollywood, bye bye et tout. Et en fait, il est devenu un bioacousticien extrêmement important. Il a fait des études. Il est comme un savant aussi. Et il proposait là à la Fondation Cartier des enregistrements. Ses œuvres, ce sont des bandes sonores qui captent des bruits qui sont des sondages sur des milieux. Un delta, l'Amazonie, alors c'est des milieux qui sont beaucoup plus précisés, hein. C'est un delta précis, un Amazonie précis, etc. On entend tous les bruits, alors c'est des plages de sonores qui peuvent durer 10 minutes, donc il y a déjà cette beauté-là, hein. Je vous assure que quand c'est quand on entend le cachalot, la baleine bleue, enfin, ouais, ces espèces de plaintes et en même temps ces chants, c'est sublime. Il y a déjà ça, il y a cette beauté-là. Mais en plus, il y a du savoir. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on sait, les noms des animaux nous sont donnés, on voit la fréquence à laquelle ils peuvent chanter, enfin, on comprend qu'il s'agit d'un orchestre, ce que ça dessine sur le mur de la Fondation, c'est une sorte de partition. Et enfin, il y a quelque chose de très politique, qui est que revenant au même endroit, parfois 10 ans après, on n'entend plus rien. Enfin, l'intensité sonore a baissé parce que la biodiversité s'est appauvrie. Et du coup, c'est une œuvre qui m'a complètement éblouie parce que je me disais que s'il y avait à la fois, évidemment, la dimension, en tout cas qui moi me touche, de connaissance, une dimension qui était politique très forte et que c'était très très beau. Et c'est pour ça que... Et tout ça quand même dans une espèce de forme qui était quand même une forme d'exposition, ce qui nous ramène à ces histoires de canon et qu'est-ce que c'est de proposer quelque chose, de tendre un livre à quelqu'un d'autre. Évidemment, tout ça sont des opérations qui ont toujours lieu dans un cadre formel. C'est le livre imprimé, c'est une exposition, c'est cette histoire de Rondeau d'hier. À propos des attentats, enfin, vous voyez, c'est pour ça.
Il me semble que ce qui est nouveau, trois positions convergentes, c'est peut-être ce concept qui est un mot valise de Paul Audy dans Créer, que vous avez lu, qui est esthétique, l'esthétique, en deux mots. C'est à l'esthétique éthique. Il me semble que vous convergez les trois autour de ce nœud-là, hein, cette position-là. Non, tu voulais dire...
Maëlys rappelle l'importance d'une dimension politique qui, même quand elle n'est pas formulée, j'ai parlé tout à l'heure de deux catégories, l'une des célébrants et l'autre de ceux qui, dans l'avilissement plutôt, mais il y en a une troisième et qui est celle de « Tout va très bien, Madame la Marquise ». C'est cette littérature jolie qui fait comme si tout allait très bien. Il n'est pas question de toujours nommer la politique dans les textes. Mais si elle ne se fait pas un peu l'écho des douleurs et des conflits qui nous traversent, celle-là, peut-être c'est celle qui compte le moins, finalement, des trois.
Et du coup, ça me permet de te demander, Hélène, à préciser un autre aspect que tu développes dans le livre et sur lequel je voudrais aussi que chacun réagisse ou donne sa position, qui est de dire, j'y ai fait allusion tout à l'heure, la beauté, on a compris, elle ne se définit pas, c'est quelque chose qui préexiste, un idéal, peu importe. Par contre, tu lui donnes un critère, il y a un critère de beauté, c'est le partage. Et tu dis que la littérature a la littérarité, dis-tu, c'est-à-dire ce qui confère une qualité littéraire à un texte, c'est qu'il a, il obéit à une fonction, je n'aime pas trop ce mot, mais je crois que tu l'utilises, de partage. Et tu précises là aussi en partant de Barthes qui évoque trois points d'impact du texte littéraire, qui est l'engagement politique de l'écrivain.
C'est la citation que j'ai donnée hier, les forces de...
Voilà.
L'engagement
tu
politique,
peux préciser cela.
L'engagement politique de l'écrivain, mais dit-il, l'écrivain est un citoyen comme tout le monde, et donc ça n'est pas pertinent pour évaluer, évaluer la force libertaire, puisque c'est, il parle des forces de liberté. Du texte, ensuite le message qui peut être éventuellement véhiculé dans le texte.
Donc le contenu, quoi.
Le contenu, oui. En gros. Mmh. Il dit que ça aussi c'est secondaire, et puis il parle du travail de déplacement effectué sur la langue comme critère. Mais je ne sais pas si là il parle de partage.
Non, c'est toi qui dis. Non. J'ajouterais un quatrième
voilà,
point.
Voilà, c'est ça, exactement.
D'impact.
Qui serait le point d'impact du. Parce que quand il parle des forces de liberté. Contenu dans le travail de déplacement sur la langue, en fait, il se situe encore dans une définition, en gros, qu'on a appelée autotélique ou spéculaire de la littérarité, où on conçoit le texte comme absolument clos sur lui-même. Ce qui fait la spécificité esthétique d'un texte, c'est le système des signes indépendamment de toute espèce de renvoi extratextuel. Quel que soit le renvoi, c'est-à-dire tous ceux que vous avez évoqués, sont absolument dénués de toute espèce de pertinence du point de vue d'une définition autotélique, spéculaire, réflexive de la littérature. Et tout à l'heure, Dominique évoquait l'illusion référentielle, parce que peut-être qu'il y a eu une légère équivoque sur illusion référentielle d'une certaine manière. Dans illusion référentielle, il y a le mot illusion renvoie à ce que vous disiez de la fiction. C'est le fait qu'on croit au monde extratextuel est un effet de la fiction. C'est-à-dire, si je prends votre livre « Réparer les vivants », est-ce que vous seriez d'accord pour dire, par exemple, qu'il y a une sorte de personnage principal qui est le cœur ou, bon, autrement dit, on est bien, du point de vue critique et du point de vue de ceux qui seraient... qui se mobiliserait ce type de catégorie critique, il dirait qu'on est bien dans l'illusion référentielle et qu'à ce moment-là, par exemple, éventuellement, devant une classe, on apprendrait aux élèves non pas à s'intéresser à cette histoire de cœur, mais à regarder toutes les stratégies argumentatives, etc., pour nous faire croire qu'il y a un enjeu extratextuel, pas forcément en termes de réalisme bête, si je peux dire, mais quand même, on y croit. Et c'est ça qui est actuellement très, très stoppé, interdit par l'enseignement et par la critique littéraire.
Mais que l'un et l'autre vous récusez dans votre travail.
Voilà. Alors, moi, ce qui m'a... Bon, pardon.
Non, après, tu reviendras sur...
L'histoire du partage.
L'histoire du partage, quand même, ce que tu entends par là.
Voilà, non, parce que j'étais en train de faire. Donc, moi, finalement, je pense qu'il faut absolument, c'est comme enseignante en plus aussi que j'ai fait cette expérience, j'ai commencé à enseigner convaincue qu'effectivement, il était de ma première responsabilité politique, hein, pas seulement en termes de pureté théorique, si vous voulez, d'apprendre aux élèves à sortir de l'illusion référentielle, puisque... La conviction, c'était que c'est comme ça qu'on les manipule. Donc, il fallait vraiment... Puis, peu à peu, de plus en plus, je me suis rendu compte que c'était une déception que j'infligeais aux élèves, terrible, leur dire non, la princesse de Clèves n'existe pas, s'il vous plaît, c'est pas la peine d'imaginer ce qui serait passé si le prince de Clèves n'avait pas écouté son messager, etc., etc. Non, 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 rien du tout. Alors je trouvais des biais, et puis finalement, je m'en sors en me disant, bon, ben voilà, c'est un mode de partage qu'on peut investir en tant que tel. Et je m'en fiche un peu de savoir si c'est de l'illusion référentielle ou pas, mais il y a un support que vous avez appelé vivant, ou un support, oui, vivant, ça me convient très bien. Et comme c'est vivant, ça touche chacun de façon différente. Il n'y a pas une seule manière d'être vivant.
Tu parles quelque part de solidarité esthétique.
De solidarité esthétique qui n'est pas figée. Enfin, c'est une solidarité esthétique indéterminée pour ce qui est en commun. C'est-à-dire qu'il y a du commun, mais il y a en même temps, chacun est saisi singulièrement d'une manière qui peut rester, qui se joue dans chaque partage. Et c'est cette espèce de tension entre de l'individualité qui peut rester intime et donc secrète, et du partage en commun, puisque de toute façon, il y a un texte qu'on partage en commun, que c'est sur ce sur quoi j'insiste. Mais il me semble que quand vous avez dit tous les deux, ça me touche énormément, personne ne nous a demandé d'écrire. Ça veut dire que vous avez dit je tends le texte. Moi, dans mon lexique, je dirais je le donne. Enfin, il y a quelque chose d'une dimension, je pense à l'anthropologie du don, enfin, qui me paraît très en rapport avec la beauté, justement, parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre que m'autoriser de quelque chose que je qui m'a été donné, parce qu'en fait, on ne peut pas, à mon avis, tendre, donner, si quelque chose ne vous a pas été donné, et qui fait sortir des individualités narcissiques, faire de l'argent, tomber dans la mode du gore, etc., etc., et que c'est ça que j'appellerais le beau, qui peut, du coup, se partager, parce que, de toute façon, ce geste d'écriture, l'écrivain, il n'est pas tout seul, il a été donné, il ne sait pas forcément par qui, par quoi, comment, mais quelque chose le décentre de son propre ego, on pourrait dire. Voilà, c'est un peu comme ça que je répondrais.
Vous partagez cette question du partage?
C'est juste où j'étais pas tellement clair sur le quatrième volet qui serait celui.
C'est le partage.
C'est le partage. Oui. C'est la forme
sur ce qu'il implique au moment de l'écriture. Est-ce que l'intelligibilité du texte qu'on va donner, est-ce qu'on doit y être absolument attentif? Ça veut dire donc en fantasmant une compréhension moyenne de ce. Ou est-ce qu'il faut lâcher un peu et dire...
Non, moi, je ne pensais pas du tout en termes d'intelligibilité. Ah, voilà. Je pensais en termes de... vous parliez de loyauté, de juste, d'éthique du geste d'écriture, dès lors que personne ne nous a rien demandé. Donc, ça peut se situer ça peut se situer à des niveaux très différents. Enfin, les esthétiques peuvent être extrêmement différentes, mais... Je pense qu'il y ait ce souci de l'adresse, hein, ce serait une autre manière de parler de partage. Il peut y avoir du souci de l'adresse dans l'hermétisme. Il n'y a pas d'incompatibilité, pourvu que ce ne soit pas un hermétisme autiste, au fond.
Oui, oui.
Peut-être.
Je pensais à une phrase de Valéry qui précède, mais qui en même temps rejoint celle de Barthes. Enfin, il dit que le poète est un agent d'écart.
Oui, c'est très...
Et dans son travail de la langue, justement, disons que la norme telle qu'elle est... sur la norme, Valéry a une formule un peu à l'emporte-pièce où il dit que c'est la fixation un peu arbitraire de la fantaisie du plus grand nombre, en fait. À un moment donné, comme dans 1, 2, 3 Soleil, le jeu des enfants, on dit, ça y est, vous avez bien rigolé, mais maintenant la langue, c'est ça. Et que le poète est donc un agent d'écart par rapport à cet arbitraire et qui était lui-même la fixation d'une fantaisie. Enfin, c'est quand même un objet singulier que cette langue que personne ne possède intégralement et qui n'existe que
en étant dispersé entre nous tous. Mmh. Et que personne, même les plus grands spécialistes, ne connaît les subtilités qu'un paysan du Poitou, parce que c'était les images que lui donnait sa grand-mère pour décrire, je ne sais pas quoi, l'attitude d'une vache qui refuse de rentrer dans l'étable. La langue, c'est tout ça, et c'est, c'est là où notre intérêt pour elle est inépuisable. C'est-à-dire qu'elle n'est possédée par personne en propre, et en entier surtout.
Et Maëlys, sur cette question du partage, justement.
Mais moi, je trouve qu'elle est... elle est très importante bon, d'un point de vue politique, parce qu'effectivement ça, on fait corps, enfin de cette manière on peut faire corps autour d'un livre, on peut faire il y a l'idée quand même qu'on, d'une forme de d'élargissement aussi d'expansion du corps social. Enfin, je trouve que dans cette idée de partage de la langue, enfin du livre comme aussi un véhicule de partage, il y a quelque chose que je trouve de très expansionniste qui me plaît beaucoup. Mais je dirais plus que encore que cette notion de partage, elle m'intéresse, j'allais dire presque encore plus sur un mode peut-être esthétique, au sens que le fait que les textes soient, enfin que ce que vient de dire David, quoi, que cette langue elle soit partagée par tous, possédée par personne, et là parlons donc de cette langue en tant qu'elle est résorbée dans un livre qui serait par exemple une fiction, hein, on va quand même je parle pas là de la langue forcément de la langue commune qui est déjà traversée par des enjeux de pouvoir, etc. Je parle de la langue littéraire et le fait que cette langue soit possédée par personne et partagée par tous, ça me touche aussi parce que en fait ça on n'est que dans une forme de prolifération, c'est-à-dire que les livres sont la question du destinataire, elle, d'une certaine manière elle est presque idiote parce que le livre chacun le subjective le prend le lit et finalement il agit le livre, il l'actualise pour lui-même et il s'en donne il s'en forme une image qui est la sienne, d'où le problème éventuellement justement des adaptations, des choses comme ça, il s'en forme une image qui est la sienne. Et il y a autant d'images qu'il y a de lecteurs, il y a des images communes, mais vous voyez, pour moi dans cette idée de partage, beaucoup plus que l'affadissement, si vous voulez, qui serait le fait que on regarderait vers le plus petit dénominateur commun ou ce qu'on appelle le mainstream. Vous voyez, ces objets qui sont quand même extrêmement dénigrés parce que finalement la démocratie, est-ce qu'elle aime autant le, enfin les, est-ce qu'elle aime le nombre, en fait, c'est ça le problème, hein. C'est que est-ce que les démocrates, c'est pas les plus enclins à aimer le nombre. Le nombre est souvent une dévaluation de l'objet.
C'est ce que rappelle souvent Jean-Claude Milner. Les Grecs n'aimaient pas le grand nombre, en tout cas.
Oui, non, mais parfois le. Oui, il y a une élection dans le peu. Il y a l'idée de former un cercle de choisi dans lequel on se reconnaît. Le nombre, c'est ce qui vous échappe, c'est ce qui vous pirate, c'est ce qui vous déplace, c'est ce qui parfois engendre de la mécompréhension, c'est ce qui vient parfois bousculer, déstabiliser et parfois même abîmer un livre. Voilà, donc il y a cette question du nombre, et pour moi, plutôt que de l'avoir comme, vous voyez, cette espèce de plus c'est partagé, finalement il y aurait une espèce de dévaluation intrinsèque de l'œuvre, ce qui repose la question du goût, etc., mais aussi des formes d'élection et de sociabilité, comment la littérature y joue son rôle, etc. Moi j'y vois une force, ça me stupéfie, c'est un truc de, même que déjà plus de, enfin que plusieurs personnes arrivent à parler d'un même livre, c'est déjà la joie. Non, mais d'une certaine manière.
Enfin, je suis d'accord, mais en fait, non, simplement, je crains que vous n'ayez compris partage comme la recherche d'un consensus. Ou... C'était pas du tout ce que je désignais.
Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, ils sont d'accord sur cette dimension de partage, mais...
Pas sur l'idée d'un consensus. Au contraire, je pense que c'est effectivement la quatrième instance, et elle n'est pas dans le consensus, mais elle peut être rabattue à un moment donné.
Absolument.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout sa nature première dans la façon dont vous en parliez. Mais si vous voulez, c'est aussi une notion qui est fragile dans la mesure où elle peut être fragilisée parce qu'elle peut être rabattue.
Absolument.
Sur une notion extrêmement de d'évaluation, c'est-à-dire plus c'est partagé, et finalement, c'est que rien de... Vous voyez, on n'est pas réifié dans la singularité, etc. Et moi, j'y vois... c'est quand même une... Je le disais tout à l'heure, il y a quand même... je pense qu'on en rencontre beaucoup des gens, enfin, finalement, qui se réunissent entre eux. Enfin, cette histoire des associations de lecteurs, des clubs de lecture, des gens qui se retrouvent une fois par... et qui parlent du même livre. Je dis, c'est déjà la joie, parce que c'est déjà faire du commun, et quand même, on est dans une société où c'est plutôt la privatisation qui est le moteur social permanent, et tout ce qui peut finalement aller contre ça, je trouve que c'est important, et on peut dire d'accord. C'est beau.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais quand même j'aimerais que l'un et l'autre, et surtout David, parce que je pense que tu l'aborderas cet après-midi, vous évoquiez donc votre travail de collègue de matériaux, le travail en amont, et l'un et l'autre disiez tout à l'heure que après tout se joue après, quoi. Après, c'est-à-dire le travail sur ou dans la langue proprement dit. Est-ce que, David, tu pourrais préciser c'est quoi ce travail pour toi? Est-ce que c'est un problème technique, de maîtrise technique, de savoir-faire technique, d'artisan? Ça a été évoqué hier, ça a été récusé. Ou est-ce qu'il s'agit de toute autre chose? Est-ce que c'est se mettre dans une position de trouver des fulgurances ou la grâce, comme disait Michon à un moment donné?
C'est vrai qu'hier, j'ai écarté un peu rapidement la fabrication, hein, en disant que ce qui m'importait surtout, c'était le jaillissement. Mais ça, c'est... Ça m'est très particulier. D'abord, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire. Ensuite, je n'ai pas une grande capacité de travail. J'ai pas une énergie. J'accumule des fragments, des blocs de prose qui font entre 3 et une quinzaine de lignes et qui sont écrits dans le plus parfait des ordres, mais toujours dans un moment. C'est le fruit d'un quart d'heure de travail, en fait. Mais à ce moment-là, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait travail, même si c'est une image qui m'aura occupé toute une semaine. Au moment où je la couche sur le papier, ça fera 10 lignes. Et le moment dont je n'ai pas parlé hier, c'est celui où j'ai accumulé, autour d'une obsession, autour d'un sujet, peut-être 400 ou 500 de ces fragments de 10 lignes. Et là, je me retrouve avec des tables couvertes de petits papiers que je fourre dans des enveloppes, que je numérote. Et puis un matin, je me lève très tôt et je vide sur la table l'enveloppe numéro 1. Et je dispose ces petits papiers. Et quand une chose est trop difficile, je la fourre dans la 2 ou la 3 pour reculer l'obstacle. Et le livre se dessine mais avec beaucoup d'arbitraire. Il y a des fragments qui ont 5 ans, qui étaient prévus pour un autre livre et qui vont quand même venir.
Tu nous dis que c'est un peu la loterie, alors?
Mais non, mais c'est pas la loterie. Mais y a... Après, j'ajoute que ce moment-là, il n'est pas du tout douloureux. Et que je... Là, c'est sifflé en travaillant. Il y a un côté... Là, il y a de l'artisanat, voilà. Parce que si je dis, ton texte, il commence au présent... Et tu vois les sept nains là.
J'adore.
S'il commence au présent, il y aurait beaucoup de fragments qui seront à l'imparfait. Ou... Donc là, je vais devoir ajuster, coudre, couper, renoncer, écarter, combler, parce que parfois il manque. Donc il... Voilà. Mais après, est-ce que c'est vraiment un travail sur la langue ? Pas vraiment. C'est
la forme.
Voilà, c'est sur l'objet livre, que je trouve toujours un peu accidentel. Parce que un livre, on le termine, mais on aurait pu le continuer. Parfois, on en a trop fait, on aurait peut-être dû en enlever. Mais cette décision-là, qui parfois n'appartient pas qu'à l'écrivain en propre, parfois l'éditeur donne son avis, parfois l'objet livre. S'il y a jaillissement, il n'y a jamais jaillissement d'un livre entier. Ou alors on lit des trucs désespérants comme Stendhal écrivant La Chartreuse en 15 jours.
Dictant.
Voilà, dictant. Mais bon, ça c'est juste fait pour nous désespérer. Et... Mais c'est, voilà, je crois que c'est... Ouais.
Mais ça ne te désespère pas, la preuve. Mélie, je pense que tu aborderas cet après-midi, donc on ne va pas te demander...
Vous êtes obligés de revenir tous.
Voilà. Il y aurait une dernière question, mais rapide. Hélas, pris par le temps, la langue, la mise en forme de la langue, ça a à voir avec un mot qui revient un peu, qui est réhabilité aujourd'hui, la question du style. Et je pense au livre que je n'ai pas eu le temps de lire encore de Marielle Massé, Style au pluriel. Et juste sur un point, ce que j'ai compris de son projet, c'est notamment l'hypothèse ou la thèse, la position selon quoi, par exemple pour un écrivain, entre son style dans la langue, dans l'écrit, et le style de vie ou la façon de vivre, il y a un continuum. Ce qui rejoint la question du vivant, de la vie, quoi. C'est-à-dire, écrire d'une certaine manière, mettre en forme la langue, et vivre.
Le style, c'est l'homme.
Voilà, c'est ça. Et vous partagez
pas
ce... Voilà, ben alors c'est intéressant. Vas-y.
Non, mais le style, c'est... En tout cas, pendant tout le XXe siècle, c'est... On a l'impression que c'est la droite, la réaction qui en est le juge, même reconnu par la gauche. C'est-à-dire que on est un bon écrivain finalement si vers Le Figaro et l'Académie on vous a dit que vous aviez du style. Et il y a cette espèce de...
Non mais pour toi.
Le style, enfin,
il y a, comme on dit, y a un très beau passage
d'Henri Michaud dans Poteau d'angle qui explique le piège que c'est en fait. Si on se laisse enfermer dans un style, on renonce à tous ses devenirs. C'est-à-dire, on vous a flatté pour Alors, la continuité entre ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qu'on écrit, oui, mais quand on parle du style d'un écrivain, on le ferme avec le présupposé qu'il l'a toujours eu et qu'il allait continuer de l'avoir. Et alors, vraiment, le passage de Michaud que j'ai pas ici, mais il montre ça comme un piège qui est tendu à l'écrivain, qui est de croire en son identité fixe et à la fin de se singer lui-même et de renoncer à tous ses devenirs possibles. Parce que quand on pense style, on pense aussi à style noble. C'est encore Stendhal qui disait le style noble qui plaît tellement à tous les gens ignobles. Quoi. Il pense à ses lecteurs les plus...
Et pourtant, si quelqu'un te dit... Ah, on prend n'importe quel petit passage d'un des quatre livres de David Bosque et on sait que c'est lui. Ça te débecte ou ça
non,
te fait plaisir?
Ça ne me débecte pas, mais je ne veux pas moi-même y croire ou me dire j'ai un style et il suffirait que je prenne un sujet pour le rendre dans cette même couleur qui sera toujours la mienne. C'est pas un filtre.
Ah, oui, ce que tu veux dire, tu ne veux
invariant.
Pas t'imiter au fond. Oui.
Et puis j'ai l'impression que d'abord... Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre mon premier texte et le plus récent. Et il y a beaucoup de choses que je n'aime pas, dont j'essaie de me débarrasser, d'autres qui m'intéressent. Et je veux continuer d'accueillir des influences et de les multiplier. Cette idée, voilà.
Maëlys ?
Oui, Je me dis en même temps, alors là on fait l'archéologie du mot style et on trouve que ça va pas du tout, que c'est un mot qui est, comme tu dis, réhabilité, mais après avoir passé quand même un certain temps
en enfer.
Je trouve qu'il y a quelque chose de très paradoxal que moi-même je démêle assez mal. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut écrire autrement que dans la continuité d'un ethos qui est le sien, c'est-à-dire des livres brefs, ramassés, silencieux, des livres lyriques, des livres vastes, du dehors, en même temps des livres très peuplés, des livres avec un vous voyez, c'est des matières de texte, des matières de langue qui sont aussi l'émanation d'un rapport au monde. Et pour moi, je trouverais ça pas très, je dirais un mot un peu, j'arrive pas à le dire, je trouverais ça assez douteux que quelqu'un autre écrive autrement qu'avec les énergies primitives qui sont les siennes, avec son, voilà, ce qu'on appelle son ethos, son tempérament. Et pour moi, le style, c'est le tempérament, en fait. Pour moi, je l'identifie beaucoup au tempérament. Et le tempérament, c'est quelque chose qui est quand même consubstantiel. C'est le grain de la voix. Le grain de la peau, la façon de bouger, etc. Ça pour moi, je vois pas comment un livre ne peut pas catalyser. Enfin, en tout cas, dans l'écriture littéraire, je me représente mal qu'un livre, par exemple, pour moi, mon travail ne pourrait pas dire qui je suis. Quel est ce tempérament-là ? Ça me semblerait assez douteux. Je serais mal à l'aise avec cette idée, précisément que mon livre ne me désigne pas. Alors que, pour autant, j'écris... Et est-ce que c'est même possible ? Pour autant, le paradoxe, c'est qu'on change. Et que ce qu'on a écrit il y a 15 ans n'est plus... Enfin, en tout cas, pour moi-même, le parcours, l'itinéraire est quand même montre, enfin, mais même moi j'en ai eu vraiment conscience, et les lecteurs peuvent le dire, enfin, voilà, qu'il y a vraiment presque une espèce des coups de force, des crises, et puis ça devient autre chose. Alors ça m'interroge aussi. Et puis le troisième point qui est quand même aussi, qui rajoute au paradoxe, c'est que est-ce que on peut, comment le style se fait voir dans un livre en fonction du sujet du livre. Si effectivement on rêve, on entreprend une espèce de méditation sur le nom d'une île politique, et si l'on raconte si on veut vraiment narrer au sens de une transplantation cardiaque, on est dans des livres qui appellent aussi des contournements du style. Et tout ça, pour me semble, moi je démêle pas bien ce paradoxe. D'accord. Peut-être qu'Hélène peut nous aider.
Tu veux ajouter quelque chose?
Oui, enfin, j'ai pas lu le livre de Marielle Massé, donc c'est parce que ce serait un peu injuste éventuellement de critiquer quelque chose qu'on connaît. Mais l'idée qu'il y ait une continuité entre le style de vie, le style de l'écriture, et même entre dans les textes, personnellement, au fond, ce qui me gêne, c'est que je suis beaucoup plus sensible à attirer l'attention sur les discordances et les discontinuités. Dans le mot partage, mon point de départ, c'est aussi de penser qu'il y a partage si le sujet a accès à son propre, à ses propres discordances, à ses propres... Alors simplement pour dire un mot sur les styles, ce qui est très très compliqué... Vous faisiez allusion au style noble. Bon, on peut le caricaturer, mais c'est vrai qu'il y a eu cette théorie des styles héritée de l'Antiquité, le style noble, le style moyen, le style bas. Disons qu'au minimum, il me semble que le style d'un écrivain, même si depuis le romantisme, on pense volontiers en termes d'originalité du style, du style propre par conséquent, il n'empêche que c'est un style propre qui se combine à des styles du temps, de l'époque, du passé, qu'il y a une transmission de styles avec des significations qu'on pourrait peut-être dire affectivo-politiques, un truc comme ça. Et bon, là, par exemple, on peut penser au travail de Rancière sur le partage du sensible. Hein. Voilà. Et ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas la même écriture selon les genres qu'on choisit. Si on choisit je sais pas, une comédie ou un, voilà, ou un... Et je pense que c'est important qu'il y ait cette tension et que ce soit que l'écriture soit au plus juste au point de tension au plus juste au point de tension qu'il faut écrire aussi.
C'est le mot important, la tension, surtout les interventions quand même.
Tout le monde a entendu.
Non, mais dans l'écriture, la tension, c'est important.
Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais je propose qu'on en reste peut-être là. Bon, je crois qu'on va en rester là, en vous remerciant beaucoup. À vous. Merci beaucoup.